6h03, mercredi 12 juin. Bonne journée, bienvenue au 88.5 FM. Profitez de la journée, je disais à la blague, prenez des photos parce qu'aujourd'hui c'est du soleil. Et après quoi, surtout à partir de demain en après-midi, le temps gris va s'installer pour un petit bout de temps. Donc du soleil avec des vents de 20-40 km/h pour la journée, maximum autour de 25. Ciel dégagé en soirée avec un minimum de 15. Demain, ça se couvre le matin. Faible risque d'averse dans l'après-midi, donc c'est pas vraiment à considérer. C'est surtout en soirée et durant la nuit que là, les choses se gâtent. On prévoit de la pluie avec un minimum de 12 dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis vendredi, c'est de la pluie, des passages nuageux. En fait, là, la quantité la plus importante de pluie est prévue pour la journée de samedi. Il y aura de la pluie également dimanche. Et ça pourrait se poursuivre aussi lundi. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, il fait beau, vraiment, selon Météo Média, selon Environnement Canada. Demain, pas si mal, avec plus de nuages. Et tranquillement, on s'en va vers des journées grises, pluvieuses, au moins jusqu'à dimanche prochain. Maintenant, dans les nouvelles ce matin, il y a cette nouvelle qui est dans la presse et qui est assommante, puis qui est choquante. Il y a de quoi vraiment être enragé quand on lit ça. Et ça concerne, une fois de plus, la DPJ. Alors, c'est une juge qui vient de blâmer la DPJ de la Mauricie, centre du Québec, parce qu'il y a un roulement de personnel tellement intense. Et là, il y a toutes sortes de raisons. Des congés maladie, des congés parentaux, des retraites, des contrats qui sont terminés. Bref, il n'y a pas de service disponible pour des enfants qui sont abandonnés. Et je vais reprendre mon expression. Les parents de ces enfants-là ont volé leur enfance. Et la DPJ a également volé leur enfance dans ce secteur précis et dans ces cas précis. En passant, la juge qui blâme la DPJ, Pascale Bérardino, est la même qui était impliquée dans un jugement concernant la petite fille qui est morte à Grimbé. Et déjà, il y a deux enquêtes menées par la Commission des droits de la personne parce que ça n'a aucun sens ce qui se passe dans cette région-là. Et l'avocate qui est impliquée dans le dossier, qui représente l'enfant, dit « Écoutez, c'est pas un cas d'exception, c'est souvent comme ça. » Je résume donc deux intervenantes en congé maladie, une autre en congé de maternité, un avocat en congé maladie, une intervenante en vacances. La juge a fait face à une cascade d'absences qui a rendu de façon pénible et exceptionnelle la révision du dossier, les enfants auraient subi ou seraient susceptibles d'avoir subi des sévices sexuels. Et la juge dit « Le navire de la DPJ est en pleine dérive. » Et les trois enfants qui sont impliqués sont donc des enfants à risque à qui on n'a pas été capable d'offrir les services nécessaires. Et là, je vous fais grâce de la réponse officielle. C'est du charabia de relations publiques. Tu sais, dans le genre, nous rencontrons certains défis à offrir des services exemplaires. Ça se peut pas payer du monde pour pondre des insignifiances comme ça. La vraie vie, là, c'est qu'on a laissé tomber des enfants qui avaient besoin d'aide. Il n'y a pas de responsable. On peut pas dire c'est Madame un tel, Monsieur un tel. C'est une accumulation de situations. Et savez-vous quoi? Dans certains cas, on retourne les enfants vers les parents abuseurs parce qu'on ne sait pas où les envoyer. On avait sorti les enfants d'un milieu de famille d'accueil, là, où ça n'allait pas bien, puis là, tu dis, on ne sait pas quoi faire avec eux autres. Alors, c'est un scandale. Des fois, le mot est utilisé tout croche, là, mais ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe là. Et là, c'est comme à travers les nouvelles. Je vous le dis, là, et c'est pas la première fois dans le cas de la DPJ Mauricie, Centre du Québec. Moi, ça vient me chercher. Je peux pas croire. Et ça me rappelle la juge André Ruffaut qui rendait des décisions qui n'était pas capable de les faire exécuter. Puis un jour, elle a dit, c'est ça, m'a envoyé les enfants au bureau de la ministre. Puis là, on a dit, es-tu effrayante? Puis le système ne l'aime pas. Puis elle prend des décisions. Hey, la DPJ, là, il statue, la juge Ruffaut. Je ne dis pas que ce n'est pas une personne qui ne fait pas brasser des affaires. Mais là, ça prend quoi? Là? Est-ce que ça prend que la juge Bérardino envoie les enfants chez le docteur Carman? C'est tout ça que ça prend là, pour que le gouvernement se réveille? Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Il est en réflexion, pas en consultation. On va me calmer, là, mais l'autre nouvelle ce matin, c'est à Radio-Canada. Une préposée aux bénéficiaires qui s'est retrouvée seule avec 88 personnes âgées à la résidence 600 Bousquet de Drummondville. Ça s'est passé vendredi. Savez-vous quoi? Il y a des gens qui ont appelé la police en disant que c'était pas normal qu'il y ait une seule personne. Et cette préposée disait qu'elle ne pouvait pas faire les toilettes partielles. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de donner des médicaments. Je suis seule avec 88 personnes âgées. Et encore là, ça ne serait pas un cas isolé. Des policiers ont été invités par d'autres proches des résidents à venir consulter la situation. Quand c'est rendu qu'on appelle la police pour dire « Allez donc dans une résidence, il y a une infirmière ou une préposée là, pour 88 personnes. » Et c'est normal. Comme c'est normal qu'on n'ait pas de service pour des enfants qui sont maltraités. Parlons du dossier des écoles, évidemment, qui va connaître en tout cas, une phase cruciale aujourd'hui. Parce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, l'a dit hier matin sur nos ondes, c'est le Conseil des ministres. Et là, il va faire passer un décret qui va transférer donc des écoles de la Commission scolaire English Montreal vers la Commission scolaire francophone de la Pointe-de-l'Île. Ce qui fait que ce sont 3 écoles, 700 élèves anglophones environ, qui sont touchés par ce transfert, à moins qu'il y ait une entente. Et quand j'écoute les propos des commissions scolaires, les dirigeants de commissions scolaires, je pense que c'est illusoire de penser là, qu'on va avoir une entente raisonnable. Parce que là, on est vraiment dans des positions genre « faites sauter la loi 101, comme ça on ne sera pas obligé d'envoyer des immigrants à l'école française. On va aller devant les tribunaux, j'ai entendu ça hier. » Alors, c'est le monde scolaire anglophone, c'est la communauté anglophone qui est choquée de voir qu'on déménage des enfants vers d'autres écoles. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'enfants. Mais en même temps, on ne sait pas quoi faire avec ces immigrants qui vont fréquenter l'école francophone. On les envoie où? Et le ministre dit, ben, il y a des écoles qui ne sont pas 100% occupées, puis on va faire un réaménagement, puis on va récupérer ces écoles. Êtes-vous capable de trouver une entente négociée? Non, ben, je vais l'imposer parce qu'il y a la rentrée scolaire. Alors, vous comprendrez, les mois, je reçois même des courriels de parents anglophones. Une mère qui m'écrit, entre autres, qui me dit « Ma fille fréquente l'école, puis là, elle va subir ce déménagement forcé. » Je comprends tout ça. Puis c'est pas idéal, mais chaque année au Québec, là, il y a des enfants qui changent d'école. Il y a des enfants qui sont transférés vers d'autres écoles pour toutes sortes de raisons. C'est pas la situation qui est souhaitée, mais c'est une réalité. Et si on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente, on fait quoi avec ces enfants qui doivent fréquenter l'école francophone à compter de la rentrée? Donc, la question, elle se pose. Alors, on verra aujourd'hui quelle sera l'avenue privilégiée par le gouvernement, mais c'est clair que ça va se faire. M. Robert se dit cependant ouvert à la cohabitation, peut-être sur une base temporaire, puis il y a des conditions précises à remplir, notamment le nombre, quand on parle de cohabitation, là, c'est franco-anglo dans la même école. Est-ce que ça peut se faire? Peut-être, mais il a des critères assez bien arrêtés. 6h12, M. Brière. Merci beaucoup. Parlons maintenant des trop perçus par Hydro-Québec. Alors, hier matin, la presse nous disait ce sera remis aux clients de Hydro-Québec, aux abonnés, différentes formes. Là, par exemple, des augmentations qui ne dépasseront pas l'inflation, qui sont inférieures à l'inflation. Une baisse pour dès l'an prochain là, sur le compte d'électricité. Tout ça, évidemment, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Ce qui est évidemment beaucoup d'argent. On sait que le gouvernement a pas mal valsé avec ça. Et on connaît le principe rapide. Là. On évalue, quand on fait des demandes d'augmentation de tarifs, ce qu'on va aller chercher. Et parfois, pour toutes sortes de raisons, puis tu ne peux pas prévoir ça à la cente près, ben, tu te ramasses avec des différences. Tout le temps ou presque favorables à Hydro-Québec. Donc, le 1,5 milliard, le gouvernement dit « je le redonne ». Et là, j'entends depuis hier beaucoup de réactions de gens qui disent « pas ça qu'il faut faire ». Parce que ça donne pas assez de valeur à l'électricité. Ça n'encourage pas les gens à réduire leur consommation. Ce matin, dans Le Devoir, Il y a un ancien registraire de la Régie de l'énergie qui dit que c'est du populisme. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'il faut prendre l'argent et, par exemple, investir pour sortir le mazout de l'industrie, par exemple, du sirop d'érable. Et prendre l'argent aussi pour convertir des systèmes de chauffage à l'électricité. Et selon son estimé, là, ces deux programmes-là, là, on aurait pour 1,5 milliard. Puis ça, ce serait une contribution majeure pour améliorer l'environnement au Québec. Moi, je veux bien, là, mais je veux juste rappeler une affaire. On a 5-6 milliards qu'on a garochés dans le fonds vert, administrés comme étant le buffet chinois des ministères et en particulier le ministère de l'Environnement. Alors, est-ce que vous croyez que quelqu'un est crédible quand il dit qu'il veut reprendre 1,5 milliard et qu'on investisse dans des programmes? C'est parce qu'on a 5-6 qu'on a gaspillé. Et là, on joue à la cachette. Le ministre de l'Environnement est venu. Il nous dit « Ah, cette semaine, ça s'en vient. Là, on va vous annoncer des belles choses sur le fonds vert. » Puis là, on a créé un conseil pour les surveiller. Hey, c'est pas 100 millions, là. On parle à coup de milliards. Et la VG a de la misère, la vérificatrice générale, à obtenir des informations. Alors, je comprends qu'il faut donner un prix juste pour l'énergie puis l'électricité. Mais en même temps, je pense que les consommateurs ont droit aussi à une certaine pause. Et c'est pas comme si on n'avait pas payé quand même des montants importants. L'autre chose, la CAQ qui a défini hier ce que sont les signes religieux interdits, je cite, « est un signe religieux tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire, un couvre-chef, qui est soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, soit raisonnablement considéré comme référent à une appartenance religieuse. » Il n'y a pas de notion de visibilité. Alors, si tu as une petite croix dans le cou, c'est un signe religieux, tu ne peux pas l'avoir. Si c'est plus ostentatoire, encore moins. Mais bref, c'est clair que avec les restrictions qu'on connaît déjà, là, par exemple pour les enseignants, il y a le droit acquis. Si vous changez de commission scolaire, vous perdez ce droit, donc si vous changez d'employeur. Et les nouveaux qui vont arriver devront se soumettre, évidemment, à cette nouvelle réglementation. Là, la question qui reste, puis on va en parler avec Bernard, j'imagine, tantôt, là, est-ce qu'on va imposer le bâillon pour mettre un terme au débat sur ce projet de loi, qui est un projet de loi sensible? Ou est-ce qu'on va prolonger? Hier, on lançait quelques sondes à Québec, puis c'était pas encore décidé. On va prolonger un peu la session parlementaire, on verra. Dans la presse ce matin, centre de recherche du CHUM, une famille qui aurait fraudé pour 1,3 million de dollars sur une période de 14 ans. Alors, Sylvie Dagenais, qui a travaillé comme assistante médicale au CHUM et au centre de recherche du CHUM, elle était coordonnatrice de recherche clinique. 7 chefs d'accusation de fraude, de faux d'emploi ou de possession d'un document contrefait. Puis elle a impliqué toute sa famille. Fraudon en gang. Alors, elle a impliqué qui? Son mari et ses 2 enfants. Comment ils ont fait ça? En gros, d'abord, elle disait un jour qu'elle avait 2 emplois. Elle travaillait en même temps, là, puis des semaines complètes pour le CHUM puis le centre de recherche. Puis elle a réussi à faire embaucher son fils, qui lui aussi supposément travaillait à temps plein. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de commentaire la direction du CHUM, mais c'est le docteur Fred Saad qui était le responsable. Et lui, faisait affaire avec Mme Dagenais, puis il lui a confié, appelons ça le volet administratif. Et elle en a profité. Et profité semaine. Je vous donne un exemple. L'accusé recevait un salaire de 35 heures de la part du CHUM par semaine, là, puis 45 heures du centre de recherche. Ça, c'est l'affirmation de la Sûreté du Québec qui a enquêté sur le dossier. Le mari, lui, payait 50 heures par semaine. Ils ont réclamé 80 000 $ de temps supplémentaire, etc., etc. Puis elle a utilisé des faux documents. Alors, c'est quand même, sur une longue période, c'est spécial de se rendre compte que personne, parce qu'on parle de montants majeurs, est allumé avant. Là. Comment quelqu'un peut travailler au CHUM, même nom, même personne? Ça te fait penser à la fausse infirmière qui était là pendant 20 ans sans que personne réalise trop ce qui se passait. Alors, donc, les quatre qui font face à des accusations. On a appris hier qu'il y avait un mandat de grève à la Société québécoise du cannabis. Les employés de la succursale Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont décidé de voter en faveur d'un mandat de grève général et illimité. Ça a été voté à l'unanimité. Et le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le salaire. Alors, on parle ici d'une échelle de salaire qu'on voudrait établir en parallèle avec la Société des alcools du Québec. Et selon l'évaluation qui est faite par le syndicat, le travail des conseillers se compare à celui des croupiers du casino et des employés de la Société des alcools du Québec. Donc, on voudrait un salaire de 18 à 24 $ l'heure. Actuellement, c'est 14. Je vais vous dire sérieusement, là. Faites une grève générale illimitée à la Société québécoise du cannabis. Pas certain que ça va affecter grand monde. D'abord, le marché noir vous remercie à l'avance. T'sais, ça n'existait pas, puis les gens en consommaient. L'État l'a légalisé, a créé son réseau. Ça, c'était prévisible, c'était écrit dans le ciel que c'était pour arriver. Mais sérieusement, là, pensez-vous que quelqu'un va, quoi, demander une loi spéciale? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui partent en grève illimitée, ça risque de durer longtemps. Ça vient d'ouvrir. Puis en passant, c'est pas de la faute des employés, ça a commencé tout croche, rupture de stock. Ça a commencé par une incapacité à offrir le service. Puis savez-vous quoi? On pourrait peut-être fermer des succursales puis strictement offrir ça en ligne. Tu sais? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est comme un peu gros. Alors, on verra la suite des choses concernant ça. Il y a le troll, Pierre Dion, qui a été reconnu coupable d'incitation à la haine, qui avait lancé des propos haineux après l'attentat à la mosquée. Et donc, il avait mis ça sur YouTube. D'ailleurs, c'est un récidiviste, un gars qui met plein de vidéos. Puis là, tu sais, c'est l'espèce de troll qui joue à la liberté d'expression en disant « Je sais pas pourquoi vous êtes scandalisé. » Je m'exprime, j'ai le droit de m'exprimer. Puis si j'haïs les musulmans, je les haïs, puis j'ai le droit de le dire. Puis nous autres, personne au Québec va nous empêcher de parler. Ben oui, tu peux pas dire n'importe quelle connerie sur le web, et surtout quand tu franchis la frontière vers la haine. Et ça, le message du juge a été clair. Il est allé au-delà de ce que recommandaient les avocats. Donc, c'est une peine de prison, mais attention, là, il va y aller une journée à la fois à prison. Parce qu'il y a un enfant, puis on a décidé de pas pénaliser davantage. Alors, sympathique petit bonhomme qui s'en va donc tranquillement quelques heures par semaine à l'ombre. Ensuite de ça, je veux revenir aussi sur l'industrie du plastique. J'ai eu beaucoup de courriels hier de gens qui disaient « Hey, ce que votre gars vous a dit hier matin, là, il y a des solutions qui sont réelles, on est capable de produire du plastique propre et également de pouvoir recycler ». Donc, mais la question qui se pose, et je lisais les propos de Sylvain Charlebois, notre expert en alimentation, qui dans ses reprises, c'est une lettre, en fait, ouverte dans De Gazette ce matin. En gros, ce qu'il dit, là, c'est que comment, sérieusement, vous allez convaincre les Canadiens de faire ce virage alors qu'il implique des coûts. Ces plats, ces emballages qu'on veut récupérable ou recyclable, bien, il y a un prêt payé pour ça. Puis quand on connaît la marge dans le domaine de la restauration, pas certain que les gens sont prêts. Puis là, il cite un paquet de sondages où on est évidemment sur des principes tout à fait alignés. Mais quand vient le moment de mettre la main dans sa poche pour dire « Moi, je pense que c'est une bonne cause et je la soutiens parce que je suis prêt à payer plus cher. » Puis il y a toute la notion de perte alimentaire aussi. Alors, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que sur les principes, tout le monde est d'accord. Maintenant, comment ça va se faire? Comment ça peut se faire? C'est une autre histoire. 6h23. L'autoroute des Laurentides.